une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leur troupe s'y honore?
Billets d'Afrique de ce mois d'avril est inspiré de textes de la revue de survie Billets d'Afrique et d'actualité de l'ONG internationale WSRW, Western Sahara Resource Watch, c'est-à-dire l'Observatoire des ressources du Sahara occidental. Dans l'émission de mars, une coquille s'est glissée dans le texte sur l'avis juridique du Conseil d'État français à propos de l'étiquetage et du statut des produits venant du Sahara occidental occupé. Les jugements de la Cour de justice de l'Union européenne sur le sujet ont été rendus le 4 octobre 2024 et non le 4 mars. Vous aviez rectifié. L'entreprise française Engie produit de l'électricité sur des terres occupées. Le 16 mars 2025, le directeur régional d'Engie pour l'Afrique du Nord a annoncé que le parc éolien de Dakhla, au Sahara occidental, avait commencé à produire ses premiers gigawattheures d'électricité. Ce parc éolien de 60 MW est principalement dédié à l'alimentation des procédés de dessalement visant à transformer plus de 5000 hectares de terre en terre agricole près de Dakhla, une ville située dans la partie du Sahara occidental maintenue sous occupation militaire marocaine. Les produits agricoles de cette région, notamment les tomates et les melons, sont principalement exportés vers l'Union européenne, où ils font l'objet d'arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour a statué à plusieurs reprises, et plus récemment, le 4 octobre 2024, que l'accord commercial Union européenne-Maroc, prévoyant des préférences tarifaires pour les produits agricoles, ne pouvait s'appliquer au Sahara occidental, faute de consentement du peuple du territoire. De ce fait, l'accord commercial qui couvre les importations agricoles en provenance de Dakhla a été considéré comme violant les principes du droit international, notamment le droit à l'autodétermination. L'accord cessera de s'appliquer au Sahara occidental le 4 octobre 2025. L'industrie agroalimentaire de Dakhla appartient majoritairement à des hommes d'affaires franco-marocains. À noter que la plus grande entreprise agroalimentaire susceptible de bénéficier du projet d'Engie est Les Domaines Agricoles, anciennement Domaines Royaux, propriété de la monarchie marocaine. Cela souligne la relation complexe entre les intérêts de l'État marocain et les activités économiques dans le territoire occupé. En juin 2022, Engie et son partenaire Nareva, la compagnie de production d'énergie du roi du Maroc, ont signé plusieurs accords de partenariat public-privé et un protocole d'accord avec le gouvernement marocain pour mener à bien le projet de dessalement éolien. Cette collaboration a été critiquée pour son implantation sur un territoire sous occupation militaire où le Maroc n'a aucune souveraineté reconnue. Les Sahraouis, détenteurs de droits souverains sur le territoire, s'opposent aux opérations d'Engie sur leurs terres. En 2023, le Parlement sahraoui a condamné l'implication flagrante d'Engie dans la consolidation de l'occupation marocaine illégale du territoire du Sahara occidental. Engie défend son projet en invoquant deux analyses juridiques et une étude d'impact social et environnemental, mais n'a rendu aucun de ces documents publics, entravant ainsi leur examen. WSRW a appelé Engie à publier ces documents, notamment une étude menée par Global Diligence, qui aurait impliqué des consultations avec les communautés locales. WSRW soutient que cette approche est absurde dans un contexte d'occupation militaire où les colons marocains sont plus nombreux que les Sahraouis n'ayant pas fui le territoire. La Cour de justice de l'Union européenne a également rejeté cette pratique, expliquant que la consultation de la population locale du territoire, majoritairement non sahraouis donc, ne saurait être assimilée au droit au consentement du peuple disposant de droits légitimes sur la terre et ses ressources. Tout en prétendant que ces opérations sont éthiques, Engie, dans ses contrats et ses communications publiques, situe le lieu du projet comme étant le Maroc, ce qui est totalement inexact. Les références juridiques figurant dans les documents divulgués ne font aucune référence au statut du territoire. En octobre 2024, Engie a signé un accord colossal avec l'entreprise publique marocaine de phosphate, l'OCPSA, qui entraînera vraisemblablement de nouveaux projets au Sahara occidental occupé. Engie n'a pas répondu à la demande de clarification de WCRW. L'ONG appelle donc tous les actionnaires d'Engie à entrer en dialogue ou à désinvestir. À l'heure où le droit international est soumis à d'intenses pressions, le comportement d'Engie ne doit pas rester incontesté. Le projet d'Engie est l'un des plus controversés entrepris sur des terres occupées. Son objectif est de développer une entreprise agricole sur le territoire, ce que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé contraire aux droits du peuple sahraoui. Pour l'ONG, le premier test de tout investisseur serait d'exiger la publication immédiate de l'étude secrète de Global Diligence, qui a apparemment pour but de légitimer l'industrie en territoire occupé, en demandant l'avis des intérêts marocains sur le territoire. Pour unir les luttes anticoloniales. Les 23 et 24 janvier, en amont du 44e congrès du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, FLNKS, des représentants des mouvements indépendantistes de plusieurs territoires des Outre-mer français et de Corse se sont rassemblés à Nouméa, capitale de la Kanakie Nouvelle-Calédonie. Un congrès des dernières colonies françaises dont l'objectif était le lancement officiel d'un front international de décolonisation, FID. Nous, organisation patriote des dernières colonies françaises, considérons que dans le contexte d'effondrement d'un ordre du monde caractérisé par l'exploitation des plus fragiles et la domination d'une partie significative du monde par quelques puissances prédatrices, l'heure est venue de faire front pour conduire nos nations à leur pleine souveraineté et participer ainsi à la construction d'un monde meilleur, explique en préambule la charte constitutive du mouvement. S'y retrouvent, outre le FLNKS, cinq organisations guadeloupéennes, dont l'Union pour la libération de la Guadeloupe, quatre martiniquaises, dont le Parti pour la libération de la Martinique, le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale de Guyane, le Tsavini Uiratira de Moai Nui, Polynésie française, ainsi que le nouveau parti indépendantiste corse, Nazione. Mais aussi des organisations de deux territoires des Caraïbes rattachés aux Pays-Bas, Bonaire et la partie sud de l'île de Saint-Martin. La charte précise en effet que bien que le FID soit créé principalement sous l'impulsion des pays encore colonisés par la France, qui a conservé un vaste empire colonial, il a vocation à rassembler tous les peuples qui luttent contre le colonialisme. En réponse, le gouvernement français n'a su que dénoncer piteusement, comme lors du soulèvement Kanak en mai dernier, des opérations d'ingérence et de déstabilisation de l'Azerbaïdjan, dixit le ministre des Outre-mer Manuel Valls, qui a évoqué une attaque inacceptable contre notre intégrité et nos principes fondamentaux. En effet, À l'origine des discussions ayant permis la constitution de ce FID se retrouve le groupe d'initiative de Bakou, ONG internationale créée en juillet 2023 pour soutenir les mouvements anticoloniaux. Nul doute que l'Azerbaïdjan du dictateur Ilham Aliyev se sert de cet outil pour venir contrarier la France, alliée de l'Arménie, avec laquelle elle est en conflit au Haut-Karabakh. Cependant, elle n'a créé ni l'impérialisme français, ni le juste combat contre celui-ci. Ce qu'a rappelé le FID le 5 février dans une lettre ouverte au président de la République et au gouvernement français, vous avez fait le choix du déni du fait colonial dont vous êtes seul responsable. Plus grave, vous n'éprouvez aucune honte à oser vous poser en victime des peuples colonisés par vous, dont le seul crime est de revendiquer leur droit inaliénable à disposer d'eux-mêmes et à choisir librement leur destin. Et d'ajouter que la France représente la seule puissance ingérante dans les affaires de nos pays. L'État français a de fait tout intérêt à détourner l'attention et à minimiser l'importance de ce rapprochement des plus importantes organisations indépendantistes de ces colonies, dont certaines entretiennent en réalité des relations nourries depuis longtemps, à l'image du FLNKS et du Tavini. Un rapprochement qui pourrait, s'il se concrétise en actes, largement renforcer la lutte anticoloniale, notamment à l'international. Parmi les premiers objectifs affichés du FID, l'obtention d'un statut de membre observateur au sein du mouvement des non-alignés et l'inscription de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Corse sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU, liste dont font déjà partie la Kanaky depuis 1986 et Naoinui depuis 2013. Texte de Benoît Gaudin. Comment Total Energy enrichit le clan de Museveni en Ouganda? En plus de causer de nombreux dégâts environnementaux et humains, le méga projet pétrolier Tilenga et Akop, lancé par Total Energy en Ouganda, profite à une trentaine de proches de Yoweri Museveni, dictateur à la tête du pays depuis 39 ans. Décidément, le projet pétrolier de Total Energy en Ouganda cristallise toutes les critiques régulièrement adressées à la major depuis sa création. Une nouvelle enquête, d'abord publiée par Mediapart en février, révèle une autre facette du scandale. Fondée sur l'analyse de plus de 12 000 documents d'entreprises sous-traitantes, elle montre que Total Energy enrichit directement une trentaine de proches du président Yoweri Museveni, membre de sa famille, conseiller, ministre d'État, officier supérieur et figure du parti au pouvoir, le National Resistance Movement, NRM, et autres proches détiennent des parts dans le projet. Derrière l'argument officiel du développement économique, souvent brandi pour justifier les déplacements forcés de population, ce projet apparaît ainsi surtout comme un rouage clé du régime autoritaire en place. Il alimente les réseaux de pouvoir et renforce la mainmise du dictateur, en place depuis 39 ans, sur l'économie du pays dans un système qui évoque les heures sombres de la France-Afrique. Ce méga-projet ne se limite donc pas aux violations massives des droits humains et aux ravages environnementaux dénoncés par les ONG et les journalistes depuis au moins 6 ans. Pour rappel, Total Energy et son partenaire chinois, CNOOC, prévoit d'y investir 10 milliards de dollars pour développer les champs pétroliers de Tilenga, en partie situés dans le parc naturel des Murchison Falls, et de Kingfisher sur les rives du lac Albert. Ces projets seront reliés au plus long oléoduc chauffé du monde, le Akop, qui traversera l'Ouganda et la Tanzanie sur 1443 km. Le projet Tilenga EACOP, une perpétuation de pratiques illégales. Dans les années 1990, l'affaire Elf a mis en lumière des pratiques de corruption au sein de l'industrie pétrolière française. Plus récemment, Total Energy a été condamné pour des faits similaires en 2016 pour ses pratiques en Irak, en 2018 en Iran. Cette nouvelle enquête en Ouganda soulève la question de la persistance de telles pratiques au sein de la major pétrolière française. Elle pose en tout état de cause, au minimum, des problèmes moraux. Ruth Nankabirwa, la ministre de l'énergie du pays, avançait pourtant en août 2024 « Nous nous engageons à faire preuve de transparence et de responsabilité en veillant à ce que les bénéfices de ces ressources soient partagés par tous les Ougandais ». L'un des premiers bénéficiaires du projet de Total Energy est le général Caleb Akandwanaho, plus connu sous le nom de Salim Saleh, frère du président ougandais Yoweri Museveni. Son entreprise de sécurité privée, Saracem, détient un lucratif contrat de protection du projet d'exploitation Tilenga de Total Energy ainsi que de l'oléoduc EACOP. Détenu à plus de 95% par Salim Saleh et son épouse, Jovial Akandwanaho, Saracem bénéficie directement des investissements pétroliers en Ouganda. Pourtant, le couple est cité dans plusieurs rapports et résolutions des Nations Unies pour son implication présumée dans le pillage des ressources naturelles à l'est de la République démocratique du Congo. Autre bénéficiaire du clan, Geoffrey Kamuntu, qui était actionnaire d'Exquisite Solutions Limited jusqu'à son divorce en 2022 avec la fille cadette du président, Diana Museveni. Cette entreprise a notamment proposé des services de recrutement de personnel pour le projet Tilenga. Edwin Karigure, époux de Natasha Museveni Karigure, fille aînée du président, détient aussi des intérêts dans le secteur pétrolier. Co-fondateur du cabinet K&K Advocates, il revendique une expertise de plus de 15 ans dans le domaine. Son cabinet affirme avoir conseillé sur les blocs 1, Tilenga Total Energy, et A3, Kingfisher CNOOC, notamment pour l'examen des plans de développement et des demandes de licence. Il n'a toutefois pas répondu à nos questions pour savoir pour quels acteurs, compagnies pétrolières, gouvernement ou autres, lui et sa compagnie ont travaillé. Autre exemple, Annington Rubarenzia Karuhanga, cousin de la première dame Janet Museveni, préside la maison mère de Three Ways Shipping Service, entreprise qui a obtenu environ 50 milliards de dollars de contrats logistiques avec Total Energy et CNOOC. L'action en justice menée par 26 Ougandais contre Total Energy est soutenue par Survie, les Amis de la Terre, France et des organisations partenaires ougandaises portent principalement sur les conditions des expulsions liées au mégaprojet qui affecte près de 118 000 personnes. En Ouganda, trois entreprises gèrent ces expulsions pour Total Energy, New Plan et ISC Engineering, un environnement pour le projet EACOP et Atacama Consulting pour Tilenga. New Plan appartient à Laurence Lévy Omulen, marié à une ex-cadre du ministère de l'Intérieur et député du NRM au début du processus d'expulsion. ICS Engineering et Environnement a été fondé par Andrew Mathieu Kasekende, dont le frère Louis Kasekende, ancien vice-gouverneur de la Banque centrale, a été accusé de détournement de fonds, notamment auprès d'une enquête parlementaire. Enfin, concernant Atacama Consulting, l'enquête n'a pas permis d'obtenir la liste des actionnaires de l'entreprise. Sur les anciennes terres et maisons de nombreuses et nombreux plaignants ougandais, s'élève aujourd'hui l'usine de traitement du pétrole du projet Tilenga. Elle est construite principalement par la filiale locale du géant portugais du BTP Mota Engil, qui a décroché pour au moins 262 millions de dollars de contrats liés au projet Tilenga. Mais cette filière ougandaise de Mota Engil n'appartient qu'à 49% à la maison mère basée au Portugal. Eli Karuanga, via sa société Ruor Company, détient près de la moitié du capital. soutien de Museveni dès le début de la guerre civile, Eli Karu Anga est devenu un conseiller clé sur le pétrole depuis qu'on en a découvert dans le pays en 2006. Il est le fondateur de la Chambre ougandaise du pétrole, ainsi que le consul honoraire des Seychelles depuis 2005. Ancien député du NRM, il est également associé du cabinet Kampala Associate Advocates, qui a fourni des services juridiques pour Tilenga et EACOP. En parallèle, Eli Karu Anga est aussi le deuxième actionnaire de BTS Uganda Clearing and Forwarding, une société qui fournirait des services de fret pour le projet Tilenga. Interrogé sur ses liens d'intérêt, il a affirmé avoir participé au processus de passation de marché conformément à la loi ougandaise. Cette défense rejoint celle de la fille de Salim Saleh, frère de Museveni, et actuelle présidente du CA de Saracem, qui affirme que toute allégation suggérant que les liens familiaux ont joué un rôle dans l'attribution du contrat de sous-traitance est fausse. Quant à Bouaniaga Taremwa, le beau-frère de Salim Saleh, il détient plus d'un tiers de Siftech Africa, qui a obtenu au moins 5,3 millions de dollars de contrat pour l'usine de traitement pétrolier de Tilenga, en tant que sous-traitant de l'entreprise, déjà citée Mota Angel. D'autres contrats de sous-traitance ont également permis d'enrichir des militaires de l'armée ougandaise, piliers du régime autoritaire, ainsi que des députés du parti au pouvoir et même des juges. Par exemple, une des entreprises en charge du traitement des déchets issus du projet Tilenga est l'Uero Industries. Cette branche commerciale de l'armée ougandaise a été placée sous sanctions américaines entre 2016 et 2018 pour son implication dans la prolifération d'armes de destruction massive en Iran, Syrie et Corée du Nord. Dirigée par plusieurs militaires, elle compte parmi ses figures clés le lieutenant-général Peter Elwelu, interdit d'entrer aux États-Unis pour avoir orchestré un massacre en novembre 2016 à Qasez, une ville de l'ouest du pays. Selon Human Rights Watch, au moins 155 personnes, dont des enfants, ont été tuées en deux jours lors de cette répression sanglante menée par l'armée. On retrouve également dans cette entreprise le général de division Fred Mugisa, ancien procureur d'État, condamné en 2017 à un an de prison pour corruption. White Nile Consult, autre entreprise impliquée dans la gestion des déchets pétroliers de Total Energy, comptait parmi ses dirigeants et actionnaires Assa Mujani, juge de la cour d'appel. Il a d'abord affirmé s'être retiré avant 2019, mais face à des documents signés par lui bien après, il a reconnu ne plus se souvenir de la date exacte de son retrait, tout en assurant ne plus en faire partie. Il était en tout cas encore actionnaire de l'entreprise début 2024. Également active dans la gestion des déchets du projet Tilenga, la société Green Label Service compte parmi ses actionnaires le député du NRM, Alex Niyonsaba. Enfin, New Rest Uganda In-Flight Service, chargé de la restauration pour Tilenga et le siège de Total Energy à Kampala, est détenu à 50% par le groupe français New Rest, cofondé et dirigé par Olivier Sadran, l'une des plus grandes fortunes françaises et ancien propriétaire du Toulouse Football Club de 2001 à 2020. L'autre moitié appartient à Kembe Investissement, dont les actionnaires sont William Biruanga, ex-procureur général et proche de Salim Saleh et la femme de Biruanga. Newrest a précisé ensuite à nos questions que Biruanga a quitté la présidence du conseil d'administration après sa nomination au poste de procureur, bien que son entreprise ait resté actionnaire à 50% de la co-entreprise. Interrogé avant la publication de l'enquête sur Mediapart, Total Energy a répondu aux questions en expliquant que la sélection des entreprises bénéficiaires de ces contrats se fait à travers un processus d'appel d'offres transparent et concurrentiel. L'entreprise a également précisé que 1,2 milliard de dollars US seront directement dépensés auprès d'entrepreneurs locaux durant la phase de construction. Ce montant aura un impact socio-économique significatif, représentant plus de 2 ans d'investissement direct étranger en Ouganda. En revanche, Total Energy n'a pas répondu aux questions concernant les mécanismes spécifiques mis en place pour garantir le respect de ses obligations légales dans le cadre de la loi Sapin 2, qui impose des mesures strictes de prévention et de détection de la corruption dans des projets de cette envergure. Texte de Thomas Barthes. Victoire, mais encore. Bonne nouvelle, Ariane Lavrieux n'a pas été mise en examen pour l'instant, seulement placée sous le statut de témoin assisté. Le 17 janvier, les juges ont reconnu l'intérêt public des révélations de Disclose et donc du travail de la journaliste sur l'opération Sirli et les dérives de la coopération militaire de la France avec l'Égypte. Le chef d'accusation, appropriation et divulgation d'un secret de la défense nationale n'a pas été retenu, les juges donnant raison aux médias Disclose quand il affirme que le secret de la défense nationale ne peut pas être utilisé de manière illégitime et arbitraire et que la coopération militaire d'un État démocratique avec une dictature telle que l'Égypte sur fond de vente d'armes relève du débat public. Communiqué du 17 janvier. Les juges ont reconnu aujourd'hui que toutes les poursuites initiées n'auraient jamais dû l'être, a souligné Ariane Lavrieux dans Mediapart le même jour. Mais cette victoire ne doit pas cacher que la loi Dati de 2010 sur le secret des sources a besoin d'être modifiée pour mieux garantir la liberté d'informer. 110 médias, syndicats et autres organisations de journalistes ont réclamé dans une lettre ouverte au Premier ministre que la seule exception à ce secret, qui est l'impératif prépondérant d'intérêt public, soit précisée. Constatant que plusieurs journalistes ont été récemment convoqués ou interpellés pour avoir simplement fait leur métier, ils demandent de restreindre le champ de cette exception et dénoncer clairement les situations précises pouvant justifier de lever les secrets des sources. Nous sommes des champs de bataille. Le film du militant et chercheur Mathieu Rigouste, Nous sommes des champs de bataille, est une plongée édifiante dans les coulisses du business mondial de l'armement. Militant, essayiste et chercheur en sciences sociales, Mathieu Rigouste analyse depuis une vingtaine d'années les systèmes de domination sécuritaire et la colonialité au cœur des pratiques policières. Nous sommes des champs de bataille expose la collaboration publique-privée qui organise le marché de la guerre, de la répression et la mort à seule fin d'accumuler les profits. Le film confronte deux mondes, d'un côté les euphémismes utilisés par les industriels de l'armement, sorte de novlangue violemment aseptisée, de l'autre l'analyse précise et la résilience de celles et ceux qui vivent dans leur chair les violences d'État. En analysant la vitrine des technologies sécuritaires, le film permet de réancrer les violences étatiques et les conflits armés dans la même rationalité capitaliste, impérialiste et néocoloniale qui les produit. Expérimentation extérieure, notamment via les fameuses OPEX au Sahel, et démonstration à domicile du savoir-faire français répondent finalement à un objectif commun: empêcher tout renversement d'un rapport de force basé sur une hiérarchisation des vies. Le film part du constat que la guerre, la surveillance, la répression résident au cœur du système d'accumulation du capital et de concentration du pouvoir à l'échelle mondiale. On a besoin de mieux connaître son fonctionnement pour lutter contre. C'est donc à la fois du journalisme d'investigation, une enquête de sociologie critique et une sorte d'artisanat visant à fabriquer un outil pour les luttes sociales. Mathieu Rigouste filme les industriels exposant au salon Millipol à Paris, un salon professionnel consacré à la sûreté et à la sécurité intérieure des États, qui a lieu tous les deux ans et rassemble autour de 1000 exposants. Il amène les industriels à raconter le lien spécifique existant entre les États et les industriels de l'armement et de la sécurité. En externe, ils collaborent dans des bureaux et des institutions où ils désignent ensemble de nouvelles menaces et conçoivent ce qu'ils appellent des solutions, c'est-à-dire des dispositifs et des marchandises. Ils construisent en même temps les budgets, la recherche et le développement, la fabrication et l'achat. Ce qui ouvre la possibilité d'export à l'international. En interne, les structures comme Millipol sont organisées sous l'égide du ministère de l'Intérieur en collaboration avec les grands industriels de défense, Thales, Idemia, dont le capital est lui-même détenu en général autour de 30%, parfois même 50%, par l'État. C'est valable pour l'État français, mais le film montre que les entreprises israéliennes ont également le même rapport et plus fort. Cette collaboration débouche sur la possibilité de fournir l'État. Celui-ci va ensuite créer les situations et les conditions d'utilisation de ces armes, les expérimenter sur le terrain, puis les mettre en vitrine, c'est-à-dire montrer qu'elles fonctionnent parfaitement. Ces dynamiques de violence exercées sur l'existence et les corps des classes populaires permettent de dégager des perspectives d'accumulation de profits gigantesques. Dans un livre qui va sortir en avril, La guerre globale contre les peuples, mécanique impériale de l'ordre sécuritaire, aux éditions La Fabrique, Mathieu Rigouste développe l'analyse du rôle important joué par la décennie d'intervention militaire française au Sahel. L'industrie militaire se développe en conjugaison constante avec la modernité capitaliste et l'expansion coloniale. Les complexes militaro-industriels ont pris forme à travers les deux guerres mondiales, puis se sont saisis des guerres coloniales comme du principal terrain pour tester et utiliser de nouvelles armes. Ce n'est pas juste de l'ordre du laboratoire, tout cela repose sur une hiérarchisation internationale inégalitaire que Mathieu Rigouste appelle un apartheid global et que les grandes puissances dominantes ont intérêt à reproduire. Cette dynamique est au cœur des guerres néocoloniales, notamment au Sahel. Pour comprendre complètement ce qui s'y passe, il faut prendre en compte qu'au-delà du positionnement géostratégique et la valeur diplomatique conférée à la France par son statut de gendarme de l'Afrique, ces déploiements néocoloniaux offrent un terrain d'expérimentation, de renouvellement, mais aussi de mise en vitrine des stocks des nouvelles technologies. Cela s'inscrit aussi dans un continuum de guerre et de contrôle. Ces véhicules, armes, technologies de surveillance vont être duales, c'est-à-dire utilisables et vendables dans le domaine de la défense et de la sécurité. L'écrasement des mouvements sociaux joue aussi un rôle de vitrine. Dans l'âge sécuritaire du capitalisme et de l'impérialisme, toutes les situations sont saisies comme des champs de bataille pour tester, utiliser et mettre en vitrine les technologies militaro-sécuritaires. Sur plusieurs siècles, un boomerang impérial lie en permanence les périphéries coloniales et les métropoles. Une connexion qui est au cœur de la dynamique sécuritaire contemporaine. Comme au niveau international, sont saisies toutes les opportunités d'utiliser ces technologies à l'intérieur. Le champ de bataille principal sur lesquels vont être réagencés les dispositifs coloniaux se trouve ainsi dans le domaine de ce que Mathieu Rigouste appelle l'endocolonial, c'est-à-dire dans la gestion des quartiers populaires où règne la ségrégation, du socio-apartheid, des prisons et des frontières. Là, il y a déjà un réagencement et une utilisation systémique, quotidienne, structurelle et structurante de ces armes. Dans un deuxième temps, dans des mouvements sociaux autres que ceux qu'il y a dans les quartiers populaires, plutôt dans les centres-villes, mêlant différentes franges des classes populaires, deviennent offensifs et menaçants, ils sont à leur tour saisis comme domaine du champ de bataille. Le bloc de pouvoir va alors réemployer ces technologies contre les mouvements type gilets jaunes, protestations après la mort de Naël, etc. Tout cela s'inscrit dans un continuum de guerre et de contrôle. Si ces mouvements sociaux évoluent vers un processus révolutionnaire, on leur appliquera une montée en puissance, en termes de militarisation, comme cela s'est fait à toutes les époques. Une phrase revient souvent dans le film. On dirait qu'il y a deux mondes absolument différents. Et on entend qu'ils se confrontent. Parfois, le système militaro-sécuritaire global invente complètement et désigne des menaces qui n'en sont pas vraiment, mais qui lui permettent de créer des secteurs de profit et d'accumulation de puissance. Cependant, les transformations de la part du pouvoir se font aussi en fonction de ce qui lui résiste. Il faut sans doute le célébrer et le raconter dans nos pratiques d'éducation populaire. Les opprimés et les dominés sont très créatifs, ne se laissent pas écraser et réorganisent les possibilités de faire communauté, de se défendre et de ressurgir. Cela touche au fait que le pouvoir sécuritaire suit un schéma qui cherche à intervenir avant que la résistance ne se transforme en processus révolutionnaire. Cette dimension est représentée dans le film à travers la lutte des classes. Mais il y a aussi une confrontation sur la notion d'autonomie pour les opprimés qui veulent produire leur propre autonomie et le pouvoir la briser. Le film rend notamment hommage à Fatou Dieng et Fahima Laïdoudi, militantes du collectif Vivolé, collectif de familles victimes de crimes policiers. Mathieu Rigouste n'a pas cherché à réfléchir sur la place des femmes dans les résistances. Il a observé, dans son travail socio-historique, qu'elles jouent des rôles fondamentaux dans tout ce qui résiste à la modernité capitaliste et à l'impérialisme. Le film cherche plutôt à réfléchir avec elles. Néanmoins, pour bien comprendre le déploiement du capitalisme sécuritaire et le monde contemporain, il faut analyser tous les rapports de domination, de race, de classe, de genre. Il est donc cohérent de donner la parole à des personnes qui sont en première ligne des violences sécuritaires qu'elles subissent dans leur corps et leur parcours de vie. Elles sont aussi dans le film parce qu'en tant que militantes, elles développent une expertise et une compréhension hyper fine, complexe et nuancée de ce qui est à l'œuvre et le traduisent dans une langue populaire commune, ce qui est indispensable. Il faut des outils saisissables par tout le monde. Ce film existe grâce au réseau de solidarité et d'entraide qui l'ont soutenu par une cagnotte et via l'accompagnement technique et politique de nombreux militants. Ce film appartient à tout le monde, il est disponible en ligne et à prix libre. Il est évident que ce ne sont pas les médias tenus par le capital qui vont le diffuser. Il existera si on le fait circuler, si on organise des projections et si on s'en sert de base pour des discussions et des débats. C'est un outil qui peut constituer le socle d'un mouvement contre l'impérialisme, la guerre, le contrôle et la surveillance et transformer les rapports de force. Ce texte est inspiré d'une interview de Mathieu Rigouste dans Billets d'Afrique.
Depuis le début des années 2000, j'enquête sur le système sécuritaire tout en participant aux luttes sociales. Et pour cette raison, j'ai été fiché par les services de renseignement français. Mais nous avons besoin de mieux connaître cette machine de guerre et de contrôle qui écrase les peuples. Alors j'ai décidé d'aller enquêter au cœur de Milipol, le salon mondial de la sécurité intérieure des États. Et lui, c'est l'un des dirigeants du J4, le lobby des industriels de la défense et de la sécurité, un peu comme le boss final.
Je veux dire, est-ce que l'utilisation de certains matériels en sécurité intérieure permet d'ouvrir des marchés à l'export ?
Oui. À partir du moment où ces matériels, on les estampille validés par le ministère de l'Intérieur, etc., ça aide.
Fuck pas fichés S43 là. Et ils veulent faire de la haute sécurité. Non mais ils sont fatigués ceux-là. Fatigués.
Ce qui porte les activités de Nexter, c'est le partenariat de confiance qui est en place avec les forces françaises, notamment avec l'armée de terre, depuis très longtemps.
Mais pourquoi est-ce qu'il y a encore des bases militaires en Afrique? Il y a l'intérêt de la France là-dedans, rien que par rapport à ses armes, de les utiliser déjà dans ces pays-là, et en plus contre nous, ici la population, et on sait très bien que ce n'est pas toute la population qui est concernée.
Police switch to new weapons, tear gas bombs and concussion grenades.
Toujours pousser plus loin notre volonté d'équiper les forces avec des armes aujourd'hui qui vont couvrir à la fois les fusils d'assaut de précision, mais aussi notre gamme de produits non létaux comme le flashball.
C'est ce qui explique les guerres impérialistes, quoi. C'est un laboratoire d'essai avant que ça va à l'extérieur.
C'est des marchés qui sont en croissance, aussi bien en France que partout dans le monde.
Et là, je peux traiter un individu là-bas, hein. Voilà.
Et nous, quel rôle jouons-nous dans ce système? Et s'il passe par nous-mêmes, est-il notre ennemi intérieur? Peut-on lutter contre lui avec les mêmes armes, au risque de lui ressembler?
La lutte nous transforme, nous change. On ne supporte plus l'injustice. On peut nous voir forts et tout ça, mais on se bat contre nous-mêmes. Lorsqu'on prend la parole, on a l'impression d'être habité, d'être en transe. Au fond de nous, c'est une bataille.
Et à un moment donné, on se dit, il est où le sable qui va faire arrêter cette machine, tu vois?
Pour comprendre ce qui est à l'œuvre et comment tout ça fonctionne, nous allons enquêter ensemble. Voici une carte des rouages et un plan d'évasion.